RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Premier invité des auditeurs ont la parole, le docteur Xavier Subirana, excusez-moi. Bonjour monsieur, vous êtes vice-président du syndicat Bonjour. National des ophtalmologistes de France. Comment en finir avec les délais d'attente pour les consultations? Votre syndicat présente aujourd'hui ses objectifs et ses enjeux pour cette année 2018. Alors, un constat quand même qui fait plaisir, c'est que les délais d'attente se sont réduits. On est à combien en moyenne à peu près pour avoir un rendez-vous aujourd'hui?
Alors, dans les dernières statistiques, on est qu'à 87 jours pour l'ensemble de la France, mais avec des disparités extrêmement importantes.
L'année d'avant, je crois, on était encore sur 117 jours, c'est
ça ? Tout à fait.
Donc il y a quand même une amélioration.
Il y a une amélioration.
Comment vous l'expliquez d'ailleurs ?
Bien parce que ont été prises en accord avec les syndicats des orthoptistes, des opticiens et avec les pouvoirs publics, un train de mesures très important qui commence juste à produire leur effet.
Voilà, c'est la loi de Marisol Touraine.
Tout à fait.
Et, donc c'est,
et les décrets qui en découlent.
Voilà, et depuis décembre 2016, me semble-t-il, vous pouvez déléguer certaines charges aux orthoptistes.
On a des délégations sur les orthoptistes et délégations sur les opticiens.
Alors, expliquez-nous concrètement comment ça marche.
Au niveau des opticiens, nous avons maintenant des possibilités. Les opticiens peuvent renouveler les ordonnances jusqu'à 5 ans, entre 16 et 42 ans, ce qui quand même donne beaucoup de possibilités, puisque vous savez que le renouvellement des lunettes se fait à peu près tous les 3 ans.
Donc effectivement, ça dégage du temps.
Ça dégage du temps, puisque le principe a été fait, l'ophtalmo fait une grande consultation et donne le blanc-seing à un opticien pour pouvoir renouveler pendant cette période-là.
Voilà, explication de cette, j'allais dire, légère amélioration, parce qu'en même temps, docteur Subirana, votre syndicat, le Syndicat National des Ophtalmologistes de France, a lancé la campagne Zéro Délai en 2022. Ça voudrait dire que l'objectif, c'est qu'en 2022, on puisse quasiment prendre un rendez-vous pour le lendemain.
À peu près.
Oui, à peu près. Bon. En tout cas, on en est tellement loin aujourd'hui qu'on se dit, vous rêvez.
Oui, bien sûr, on rêve. On espère aussi qu'on va nous donner plus d'ophtalmologistes. C'est un vœu pieux, mais c'est un vœu. Mais surtout parce qu'on joue sur plusieurs tableaux. On joue sur le fait que l'on s'occupe des lunettes, mais il faut comprendre que un ophtalmologiste ne fait pas que des lunettes. Quand un patient vient, les gens ne réalisent pas que dans 30% des cas, il a une pathologie derrière. C'est rare chez quelqu'un de jeune, mais c'est très fréquent chez une personne âgée. Donc, en jouant avec les orthoptistes, et je pense que vous allez nous interroger là-dessus sur les protocoles organisationnels, on diminue le nombre de consultations pour les pathologies.
On accueille François qui est à Rouen. Bonjour François.
Bonjour François.
Oui, bonjour.
Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le journal le reportage de Julien Caillard à Lyon, à Caen, pas très loin de chez vous, qui était assez édifiant. Il y a un petit problème, semble-t-il, en Normandie.
Écoutez, sur Rouen en tout cas, je peux témoigner du fait qu'il y a effectivement un vrai problème.
Alors racontez-nous, parce que vous souhaitez un rendez-vous donc chez l'ophtalmo.
Écoutez, je ne souhaite plus de rendez-vous parce que j'ai eu la chance de rencontrer par hasard un ami ophtalmo, d'ailleurs dans la Manche, dans un département normand, un peu plus éloigné de la Seine-Maritime.
Et qui vous a fait une fleur en vous disant « viens chez moi ».
Qui m'a fait une fleur en disant « viens chez moi, je vais pouvoir renouveler tes verres ».
Tout le monde n'a pas un ami ophtalmo. Hein.
Sinon, vous en étiez où dans votre recherche?
Sinon, j'en étais arrivé à faire un peu une tournée exhaustive des ophtalmos sur Rouen. Je me voyais opposer des fins de non-recevoir complètes et totales.
Comment ça?
Du style « nous ne prenons plus de nouvelles patientèles ».
Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire qu'on ne vous fixait même pas un rendez-vous à 6 mois, fixait rien du tout.
On ne me fixait rien du tout. On me disait, nous ne prenons pas de nouvelles patientèles.
C'est incroyable.
Et on vous donnait un argument ou pas du tout? Non, c'était comme
non.
ça.
Ils sont complets, en fait.
C'est un peu ce que j'entendais, en tout cas.
Mais c'est intéressant. Docteur Subirana.
Oui, c'est exact. Malheureusement, il y a un certain nombre de confrères qui sont à saturation et effectivement, il y a des cabinets qui ne prennent plus de nouveaux patients, mais à mon avis, ça va rester provisoire puisque les mesures que l'on prend sont justement faites pour le permettre et pour permettre de libérer du temps.
Il y a un problème en Normandie particulier.
Ah ben bien sûr, puisqu'il parle de Rouen, ouais. On est dans des statistiques à 174, 180 jours pour avoir un rendez-vous. Et c'est justement dans la région de Rouen que ont été mis en place un protocole expérimental qui arrive aujourd'hui à rentrer dans la loi et dans le PFSS qui vient d'être voté. C'est justement ce protocole qui se faisait dans toute cette région qui va donner de l'air à...
Qu'est-ce que c'est ce protocole?
Il y a deux protocoles, qui article 51 qui avait été fait, l'un en Pays de Loire et l'autre sur la région du Havre qui étaient deux régions absolument
très tendues.
Qui permettent à des orthoptistes de renouveler l'ordonnance qui ne renouvelle pas l'ordonnance, qui font l'examen de la réfraction, qui prennent des photos du fond d'œil, qui font un certain nombre d'examens, qui les envoient en télétransmission à l'ophtalmo.
À l'ophtalmo, qui à ce moment-là renouvelle automatiquement.
Renouvelle si tout est parfait. Et s'il y a un problème, l'ophtalmo s'engage à voir très rapidement le patient.
Ça serait bien que ça se fasse assez rapidement à Rouen, parce que franchement, les ophtalmos sont des médecins.
Oui.
Ça ne vous pose pas un problème quand un médecin dit à un patient...
Oui.
Je ne peux pas vous prendre.
Moi, ça me pose un énorme problème. C'est même anormal.
Ben voilà.
C'est totalement anormal.
François ?
Oui, à nous aussi, patients, ça nous pose quelques problèmes.
Oui.
Moi, j'en étais arrivé sur le conseil de plusieurs amis, à envisager un rendez-vous sur Paris, aux alentours de la gare Saint-Lazare, paraît-il. Il y a des ophtalmos qui prennent sous des délais raisonnables.
Mmh. Oui.
Ça, c'est sûr qu'effectivement, à Paris, il y a plus de place. On va marquer une courte pause. Juste au niveau des étudiants en médecine, vous souhaitez qu'il y ait un nombre d'ophtalmos, que le nombre soit augmenté?
C'est un rêve, mais parlez-en à la ministre.
Eh bien, on a le droit de rêver. Allez, on marque une pause et on vous retrouve tout de suite avec les auditeurs d'RTL qui nous appellent en nombre, visiblement. 32-10, à tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Vincent Parisot.
Et on évoque avec vous les délais d'attente chez les ophtalmos, 87 jours. Et encore, ça va mieux. Nous sommes en studio avec le docteur Subirana, vice-président du syndicat national des ophtalmologistes de France. En ligne avec nous, Corinne, qui est en Normandie, elle aussi, dans le Calvados. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Bonjour Corinne.
Bonjour.
Donc en Normandie, hein, vous confirmez, c'est l'enfer. Ah oui,
pas 87 jours. Hein.
C'est combien?
Oh, c'est un an d'attente.
Un an?
Oui. Sur Caen. Alors, moi, j'ai un ophtalmologue, si vous voulez, sur Caen, donc il me prend, mais si vous n'êtes pas... si vous téléphonez pour la première fois, il refuse.
Hein. Il refuse de... qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous, Corinne. Vous êtes infirmière, je précise.
L'an dernier, j'ai un opticien là, dans ma ville, enfin à côté, et j'avais un problème avec mes lunettes. Donc, je vais le voir, et il me répare mes lunettes, tout ça. Puis, j'ai dit, oh là là, faut que je prenne rendez-vous chez mon ophtalmo, mais alors, je vais voir ça dans combien de temps? Et j'avais un problème de vue, je sentais bien que ma vue baissait. Il m'a dit, écoutez, moi, je peux, j'ai le pouvoir de changer vos verres, de vous serez remboursé par la Sécurité sociale. Donc, je me suis assise, et il m'a, pendant trois quarts d'heure, il m'a fait les examens, et... il m'a changé mes verres, j'étais remboursée par la Sécurité sociale.
Vous avez été remboursée par... C'est bizarre parce que ça fait réagir tout le monde dans ce studio, et notamment notre invité, docteur Subirana. C'est possible que...
J'avais mon ordonnance, n'avait pas 3 ans.
Oui, et elle était postérieure à la loi. Donc, si vous êtes dans ce créneau-là, forcément, vous êtes pris en charge, puisque c'est le système... qui permet justement
donc, voilà, faut avoir une ordonnance d'avoir,
mais il faut qu'il,
est
qu'il soit en cours de validité, exactement.
D'accord.
Voilà, et c'est pour ça que nous commençons à voir les effets. Mais ça ne sera à plein, compte tenu d'un renouvellement à 3 ans habituel des lunettes, ça ne sera à plein que dans les années qui viennent.
Donc en fait, voilà, Corinne, vous avez profité de l'amélioration du système.
Exactement.
Tout à fait. Bah, j'ai bien apprécié.
Et il faut absolument que les gens prennent l'habitude de profiter de ces choses-là, parce que ça permet, en toute sécurité. Par contre, il faut que ces patients...
Mais on ne peut pas se passer complètement d'un ophtalmologue.
Ah mais non, justement, c'est ça l'intérêt du système. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un examen complet de l'ophtalmologiste avant, qui sécurise pour maintenant ces 5 ans entre pour des personnes qui ne sont pas presbytes. Hein, donc pendant 5 ans, vous pouvez le faire renouveler et rembourser par la sécurité sociale et la complémentaire, ce qui permet d'éviter de faire la queue dans des cabinets.
Moi, il m'a dit 3 ans.
Voilà,
3
c'est,
ans.
C'est ça.
Et moi, ça faisait 2 ans que j'avais été voir mon ophtalmologue. Et j'ai eu aucun souci et il a pris le temps de me faire tous les examens nécessaires.
Donc voilà, donc il y a possibilité, j'allais dire, non pas de court-circuiter, il ne s'agit pas
non,
mais de faire...
Au contraire,
voilà. Non, c'est légal.
Vous rentrez dans un parcours de soins. Voilà. On a transformé le fait...
On l'a élargi en fait, ce parcours de soins.
Exactement, ce n'est plus une personne qui vous soigne, c'est une équipe. Et avec les orthoptistes, avec les opticiens, on forme des équipes.
Donc ça, c'est effectivement, j'allais dire, la situation presque idéale
qu'a
connue Corinne. Je vais quand même vous présenter Frédéric, qui nous appelle de Haute-Saône. Bonjour Frédéric.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous avez pris rendez-vous, vous avez été, je crois, voir l'ophtalmo à la fin de l'année 2017, hein,
non,
c'est ça ?
Non, c'est pas tout à fait exact.
Alors,
je
allez-y.
Je l'ai rencontré en mai 2017, et vu sa surcharge de travail, il m'a proposé de me voir 3 ans après.
Pardon ?
Mais, oui, 3 ans après. Mais par contre, comme j'étais inquiète par rapport à un souci, il m'a détecté une membrane derrière la rétine.
Ah mais vous a
examiné, madame.
J'ai pris rendez-vous au mois de décembre et pour mai 2019, soit 2 ans après.
D'accord, mais il vous a quand même reçu.
En mai dernier, oui, c'est ça, en mai 2017.
Je l'ai vu en mai 2017, mais c'était mon rendez-vous qui avait été pris au préalable, puisque je le consultais tous les 2 ans. Si
c'est-à-dire que, j'essaye de bien comprendre, vous l'avez vu en mai 2017, et finalement, il vous a détecté quelque chose, et vous devez le revoir en mai 2019.
Et il m'avait... pourtant dit, je vous revois dans 3 ans. Mais bon, étant un peu inquiète, j'ai...
Donc vous êtes passé de 3 ans à 2 ans.
Voilà. Enfin, mais je me suis...
C'est fréquent, ça,
secrétaire.
Docteur
Zubira.
Ah oui, c'est
2 ans.
2 ans. On prend les rendez-vous à 2 ans, comme ça, chez l'ophtalmo?
Moi, ma connaissance, non, mais enfin,
moi, je trouve ça fou, mais...
Non, mais... Non, ce qui se passe, cette dame décrit un problème pathologique. Donc c'est le médecin qui a décidé et qui a... choisi et qui a dit il faut que je la revoie dans 2 ans sauf complications, puisque son problème peut entraîner des choses. Donc il décide de la date. Maintenant qu'il ait pris le rendez-vous, ça le regarde complètement. Mais en principe, le fonctionnement, c'est de dire, par exemple pour un diabétique, je vous revois
dans
2 ans.
Je vous revois dans 2 ans, d'accord, voilà. Ok, on commence à comprendre. Merci de votre témoignage, Frédéric. On a des messages.
On a pas mal de messages sur Facebook, sur le compte RTL, les auditeurs ont la parole. On a Oriane qui nous dit à Brest, 18 mois pour un rendez-vous et ce n'est pas un cas isolé. Anne à Épinal, 1 an pour avoir un rendez-vous. Vaut mieux pas avoir de soucis le jour du rendez-vous, ça c'est sûr. Et Françoise, à Lyon par exemple, les dermatos donnent des rendez-vous à 3-4 mois ou ne prennent pas... Non, c'est pas les dermatos, c'est les ophtalmos. Donnent des rendez-vous à 3 ou 4 mois ou ne prennent plus de nouveaux clients. Ça, c'est exactement les témoignages
exactement, qu'on avait tout à l'heure. Effectivement. Et on a Jacqueline qui est dans le Morbihan du côté de Sarzeau qui nous appelle. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour Vincent, bonjour Christelle.
Bienvenue.
Bonjour monsieur et bonne année.
Bonne année à vous également. Vous êtes allée chez l'ophtalmo le 12 janvier.
Oui, je suis allée le 12 janvier, il m'a dit « je veux vous revoir, donc prenez rendez-vous pour le mois de septembre, le 7 septembre ».
Ah oui, quand même.
Si voilà, ça fait 9 mois, juste 9 le temps mois. De faire un bébé.
Oui, ben bah voilà, comme oui, ça, vous pouvez.
Voilà. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne prennent plus personne. C'est un centre d'ophtalmologie où il y a 5 ophtalmos. Il y a des orthoptistes aussi. Et j'ai une amie qui était vraiment en urgence parce qu'elle avait un œil où elle ne voyait plus rien. Et bien, elle a fait tout vanne. Elle a cherché partout. Personne ne l'a pris. Personne.
Alors, quand vous dites urgence, laissez-moi quand même, et là je vais parler quand même à côté d'un médecin, laissez-moi espérer que ce n'était pas une réelle urgence, parce que sinon là on est dans une situation gravissime,
alors,
docteur.
Voilà, exactement.
Elle voyait plus d'un œil.
Oui, alors, à ma connaissance, et sous réserve de dire une bêtise, mais je ne crois pas, les urgences sont assurées en France de façon correcte. Essentiellement, il faut leur tirer le chapeau par les services hospitaliers.
Oui, c'est-à-dire, si on a un problème demain,
les services hospitaliers,
aller aux urgences.
Vous avez sur Paris un très.
Oui, mais à Paris, on a de la chance, on a les 15.
Non, mais vous avez.
Mais c'est presque un cas unique.
Les urgences ophtalmologiques.
Ah oui, dans les hôpitaux, oui, d'accord.
Dans les hôpitaux de toute la France fonctionnent très bien. Bien sûr, avec des délais, vous restez souvent 3 heures à attendre, mais les délais, les urgences sont assurées. Mmh. La vraie urgence. Mmh. Ce qui est très. Qui pose problème, c'est que beaucoup de gens considèrent qu'ils sont une urgence parce qu'ils ont une envie de changer de lunettes, parce qu'ils ont une petite baisse de vision, enfin des choses qui ne sont pas urgentes.
Oui, mais les ophtalmos doivent pouvoir prendre des urgences tous les jours, quand même.
C'est heureusement que c'est ce qui est fait, madame, sur la France. Bon. Heureusement ce qui est fait. Il n'y a pas de problème, sinon les tribunaux s'en
occuperaient plus longtemps. Sinon il y a un problème de santé publique. Et là,
qui se poserait. Jacqueline nous dit le contraire.
C'est encore autre chose. On va marquer une pause.
Oui, et on va clore ce débat dans un instant avec Annie qui est au Havre.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et sachez que dans quelques minutes, nous parlerons auto avec notre spécialiste maison Christophe Bourroux. Le marché de l'électrique ne s'est jamais aussi bien porté. Et le groupe français PSA veut même développer cette version pour chacun de ses modèles. Alors, est-ce que vous êtes déjà passé à l'électrique ou pas? Ça vous tente ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est encore trop cher? Qu'on manque de bornes? Dites-le nous. Appelez-nous dès maintenant au 32 10 pour passer à l'antenne.
Et on est encore pour quelques instants avec le docteur Xavier Subirana, le vice-président du syndicat national des ophtalmologistes de France, et avec vous au 3210. On parle de ces délais d'attente qui ont certes, en moyenne, au niveau national, un petit peu diminué, mais qui restent très importants. Alors, notamment dans les régions de l'Ouest, hormis peut-être le Sud-Ouest, mais...
Oui, essentiellement, c'est
la Bretagne, Normandie,
Pays de Loire, Normandie. Mmh.
Par exemple, le Morbihan.
Bah oui.
Bah oui. Alors bonjour Jacqueline. Non, c'est pas Jacqueline que nous devons avoir, c'est Annie.
C'est
alors.
Annie.
Bonjour Annie. Ben voilà,
Annie qui est au Havre. Donc
c'est bien aussi le Havre. Hein.
Mais oui, il fait beau, il y a du soleil.
Ah, voilà, c'est déjà ça, parce qu'ici, on le voit pas.
On en manque.
Hein.
Alors,
oui. Dites-nous. Bon, eh bien, moi, j'ai vu mon ophtalmo le 9 janvier. J'ai d'abord été pris en charge par une orthoptiste qui a pris mes mesures de vue. Et... très gentil, et après j'ai vu mon ophtalmo qui m'a fait le fond d'œil, et voilà, je n'ai pas eu à renouveler mes verres parce que ma vue n'avait pas changé. Mmh. Donc ça faisait un an que j'avais le rendez-vous. Systématiquement, quand je vais chez lui, je prends rendez-vous pour l'année suivante. Mmh. Et là, j'ai rendez-vous dans 2 ans.
Mmh. Ah oui, quand même, dans 2 ans.
Oui. Et quelle est la question, puisque là, ça me semble absolument parfait comme...
La question, c'est, je crois, c'est, vous voulez savoir ce que vous allez faire, s'il y a besoin de le voir rapidement?
Non, je pense que, étant donné que je suis cliente chez cet ophtalmo, que si j'avais un gros problème, il pourrait éventuellement, je pense, me prendre en charge entre deux.
Bien entendu.
Enfin, j'espère.
Oui, bien
c'est
entendu.
Ça. L'inquiétude, alors ça peut-être, il faut les rassurer, l'inquiétude de ces personnes, c'est, attendez, si on me donne un rendez-vous pour dans 2 ans, ça veut dire que...
Il y a plein de choses qui peuvent se passer.
Voilà, et qu'est-ce que je fais si j'ai un problème?
Oui,
voilà.
Tout à fait, mais il y a plusieurs types de rendez-vous. Il y a les rendez-vous programmés, quand vous voulez simplement avoir une surveillance ou pour changer des lunettes, enfin c'est des choses qui sont programmées et qui ne nécessitent pas une réaction immédiate, mais quand vous avez une infection, une conjonctivite, que vous avez une baisse de vision brutale, effectivement, il faut demander un rendez-vous d'urgence et tous les médecins ont des services d'urgence. Et par exemple, quand vous faites sur Internet et que vous tapez, vous avez, est-ce un rendez-vous d'urgence ou pas ?
Voilà.
Et donc, si c'est un rendez-vous, une vraie urgence, vous êtes prise, heureusement.
Bon, on finira sur ce message rassurant. Merci, docteur Subirana, d'avoir dialogué avec les auditeurs d'RTL. Et merci à vous tous qui avez fait le 32-10.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Alors, on a pas... On a posé la question aux auditeurs d'RTL au sujet du manque d'ensoleillement, du manque de soleil. Est-ce que vous en souffrez ? Alors, on avait 72%
oui,
25% de non. Que nous dit-on précisément, Laurent Tessier ?
A complètement écrit Sandrine, le manque de soleil joue directement sur mon état de fatigue. C'est déprimant, nous dit Eric. J'envisage de déménager dans le sud de la France. Pour Anne, le programme, c'est quoi ? C'est la grande lassitude, un peu de déprime passagère, beaucoup de mal à me lever. Je fais une heure de marche par jour pour ne pas rester enfermé. Mais attendez, Christelle, Vincent, il y a quand même des ravis. Exemple, Josette. À Lyon, on a le soleil de temps en temps. Je suis patiente. Dans deux mois, on pourra dire « Printemps, tu peux venir ?»
C'est vrai.
Nana habite aussi dans la région lyonnaise. Les pelouses sont pleines de pâquerettes. Les canards de l'étang d'un parc proche de chez moi font leur parade. Il y a du soleil aussi à Carquefou, chez Yvelines, dans le beau département de la Loire-Atlantique. Le ciel bleu redonne la pêche. Super soleil dans le Calvados, écrit Richard. Et le conseil de Kevin pour finir avec ce manque d'ensoleillement, venez tous en Vendée.
Ah bah oui, ça, c'est sûr que c'est tentant. Bon, pas pour prendre rendez-vous avec un ophtalmo, parce qu'on l'a compris, en Vendée aussi, ça coince un petit peu, mais pour prendre le soleil. Merci beaucoup, Laurent Tessier. On va marquer
une petite pause, et puis dans un instant, on parle des voitures électriques. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'électrique ?
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Êtes-vous prêts à passer à la voiture électrique ? On en parle au 3210. On retrouve notre spécialiste maison, Christophe Bourreau. Rebonjour.
Rebonjour.
Bon, il y a quand même un petit frémissement. Le marché a progressé de 13% en 2017. Est-ce que ça vaut le coup ?
Oui. Alors, ça ne vous a pas échappé depuis le début de l'année. Le prix des carburants a grimpé en flèche, plus 11%, alors ce sont les taxes. Forcément, donc, on peut réfléchir. Il y a le GPL, mais il n'y a pas trop d'offres pour le GPL, qui est pourtant très intéressant, le gaz. Et il y a l'électrique. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un bonus qui est quand même hyper intéressant, 6000 euros. Si vous mettez votre vieille voiture à la casse, vous récupérez... plus que 8500 euros cette année au lieu de 10 000, mais ça reste très intéressant. Après, la question qu'il faut se poser, c'est quel usage on fait tous les jours ? Si vous êtes un gros rouleur qui fait Paris-Nice, c'est pas la peine.
C'est pas possible.
Voilà. Si vous faites peu de kilomètres aussi, c'est pas intéressant. En fait, on estime qu'une voiture électrique soit rentabilisée si vous roulez entre 12 et 30 000 km par an, à raison de 50 à 80 km tous les jours. Ce sont des études qui le prouvent.
Moi, j'ai une question sur les modèles. Parce que, bon, on peut faire peu de kilomètres tous les jours, donc, mais avoir besoin d'une grosse voiture, parce qu'on a trois enfants, un chien, deux chats, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mis à part la Tesla, qui est...
Oui, hors norme.
Ce qui est surtout hors
niveau
bouteille.
Du prix,
voilà, si on joue au loto.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de petites voitures électriques.
Non, mais bien sûr, tous les constructeurs, Volkswagen par exemple, les gros constructeurs pensent à produire ce type de véhicule, mais ils sont surtout sur l'hybride, c'est-à-dire sur les véhicules beaucoup plus lourds, familiaux. Là, on est sur une hybridation. Parce qu'effectivement, le poids des batteries fait que c'est moins intéressant et c'est beaucoup plus cher à l'achat.
D'accord.
On accueille Olivier qui est en Charente-Maritime. Bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour Vincent.
Bonjour Olivier.
Alors vous êtes passé à l'électrique il y a 2 ans et demi, c'est ça ?
Ouais, moi je suis passé à l'électrique il y a 2 ans et demi. J'y suis venu avec il y avait une publicité sur la reprise des vieux diesels.
Oui.
J'avais une Xantia qui était de 96. J'ai dit tiens, pourquoi pas sauter le pas. Bon, moi je suis assez friand de tout ce genre de nouveautés qui peuvent aller vers un pas d'avenir.
Ouais.
Donc il y a 2 ans et demi, j'ai dit allez banco, je fais. Donc là je me suis fait.
Vous avez bénéficié de la prime alors, la prime importante.
Voilà, j'ai bénéficié des 10 000 euros de prime. Et c'est comme ça que j'y suis venu. Voilà.
Et vous avez acheté quoi alors ?
J'ai acheté une Nissan Leaf.
D'accord.
Et vous en êtes content ?
Ah, c'est magique comme voiture.
C'est la voiture la plus vendue au monde, hein, électrique.
Ah, c'est enfin, l'électrique en général, c'est franchement une voiture qui est qui est magique, c'est puissant, c'est silencieux. Bon, c'est exemple, bien sûr, de pollution. Mais c'est très agréable à conduire comme voiture. Mmh. Bon, je faisais avec mes deux thermiques, 42 à 45 000 km par an.
C'est-à-dire c'est énorme.
Avec mes deux thermiques, je parle avant.
Oui, d'accord.
Avant.
Mes deux thermiques, je faisais donc ça, 42 à 45 000 km par an. Et donc j'ai arrêté une thermique pour prendre une électrique et j'ai une thermique à côté.
Oui.
Et moi, je fais, celui qui roule le plus dans la journée prend l'électrique. L'autre prend la thermique. Et si quelquefois, moi par exemple, j'ai souvent l'électrique en main. Et si j'ai besoin d'aller loin, j'échange avec mon épouse. Et puis voilà.
Ouais, vous arrangez. Et donc c'est parti là maintenant, Olivier. Vous allez rester à l'électrique.
Alors moi, pour vous dire, aujourd'hui l'électrique fait 30 000 km et le thermique en fait plus que 12. Vous voyez, on a
vraiment plus
d'électrique, quoi.
Oui.
Et alors le problème de la voiture électrique, c'est son autonomie. Bon, j'ai une petite batterie, j'ai 100 km d'autonomie l'hiver et 125 l'été. Bon, après, j'ai pas forcément une conduite économique, je reconnais aussi. Mmh. Mais j'ai besoin, si je vais un petit peu loin, j'ai besoin de recharger.
Ouais. C'est ça le problème.
Le problème que j'ai, alors, il y a des bornes de recharge qui sont un petit peu partout. C'est pas un problème, les bornes de recharge.
Ben non, parce
c'est
que
le temps,
c'est le temps que
ça vous prend.
Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est les voitures thermiques qui sont garées sur les places de voitures de recharge. C'est là le problème.
Ça, peut-être qu'à un moment, on va décider qu'on met une grosse prune, comme aujourd'hui, si on se gare sur une place handicapée.
C'est pas une prune, c'est faut les foutre en fourrière directement.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Et moi, je vois, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Saintes. Bon, j'étais un petit peu limite pour faire mon aller-retour. J'avais besoin de recharger. Je suis allé sur la place de Leclerc, bien sûr, occupée par les voitures thermiques. Je suis allé voir la gendarmerie qui m'a dit, nous, on ne peut pas dégager parce que c'est une place de parking comme une autre. Voilà ce qu'ils m'ont répondu.
Ouais.
Donc, j'ai fait appeler les personnes pour qu'ils dégagent leur voiture, que je puisse faire le plein. Le temps a monté, j'ai failli me faire taper dessus. Donc, moi, aujourd'hui, là, j'ai changé ma voiture l'année prochaine parce qu'elle va approcher des 100 000. Je pense que je ne vais pas reprendre l'électrique.
À cause des problèmes de recharge.
Ça, c'est un vrai sujet, ça. Les gens qui se garent sur les voitures de place de recharge.
Surtout qu'après, on va avoir beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, il va falloir faire la queue pour recharger sa voiture.
On va achever cette séquence avec un autre Olivier qui est un petit peu plus loin sur la côte atlantique, du côté de Bordeaux. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Bonjour Olivier, chef d'entreprise.
Voilà, c'est ça. J'ai une entreprise de froid et climatisation sur Bordeaux et j'ai un parc de voitures électriques. Enfin, bien sûr, un parc de véhicules thermiques, mais aussi un parc de véhicules électriques. Et je rejoins l'autre Olivier sur les problèmes, effectivement, de véhicules thermiques qui se garent sur les places pour les recharges. Quoi. Mmh. Voilà.
Et vous, dans l'absolu, Olivier, vous aimeriez passer en tout électrique ?
Non, mais c'est pas possible, c'est irréaliste parce que moi j'ai des véhicules électriques pour circuler dans Bordeaux. Si vous voulez, je suis un peu un passionné d'automobile et puis j'ai laissé tomber la vitesse.
Ouais.
Donc, c'est vrai que le véhicule électrique, c'est une autre façon de conduire. Mmh. Déjà, même avec les véhicules thermiques, on fait des économies de carburant aussi parce que comme on a pris l'habitude de gérer sa conduite avec les véhicules électriques, après on s'aperçoit qu'avec les véhicules thermiques
aussi, on fait des économies. Donc avec deux écueils qui pour l'instant vous empêchent d'envisager de passer au tout électrique, l'autonomie, on l'a compris, et les problèmes de recharge, que ce soit de temps ou d'espace, parce que effectivement, si on considère qu'une place pour la recharge est une place de parking, on va avoir du mal à lancer l'électrique en France.
Mais pour conclure cette séquence, Christophe, le marché là, il est sur une pente ascendante très très forte là. Il va exploser le marché d'électrique dans les
prochaines
années.
Oui, après...
Ça fait quelques années
qu'on le dit, mais là, tout est réuni pour que ça explose. Surtout que l'interdiction des centres-villes va faire qu'on va être obligé de passer à l'électrique. Donc ça, c'est sûr.
Oui, mais une voiture électrique, on paiera quand même
Parce qu'il y aura les péages urbains.
Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Allez.
Merci. On fait une pause dans un instant. On retrouve Laurent Gérard.